VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 10 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Fin du conclave de l'opposition congolaise près de Bruxelles. Une nouvelle structure a été créée et le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat réclamé.
À Brazzaville, le ministre de la Justice demande une procédure contre le pasteur Ntoumi ainsi que l'accélération de celle engagée contre le général Mokoko.
À Bangui, poursuite du débat au Parlement sur la politique générale du gouvernement.
En Libye, combat hier dans le centre de Sirte après l'entrée des forces pro-gouvernementales dans ce fief du groupe État islamique.
Ici, aux États-Unis, début des funérailles de Mohamed Ali, aujourd'hui à Louisville, sa ville natale dans le Kentucky.
Et ne manquez pas la Minute Écho ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal.
L'opposition congolaise, réunie près de Bruxelles, a donc décidé dans la nuit de jeudi à vendredi de s'unir au sein d'une nouvelle structure baptisée Rassemblement et exiger le départ en fin d'année du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. C'est l'un des principaux résultats du conclave tenu par l'opposition et la société civile autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi en Belgique. Nous y reviendrons en seconde partie.
En République centrafricaine, poursuite ce vendredi au Parlement des débats sur la politique générale du gouvernement. Débats qui ont duré toute la journée d'hier. Le document est diversement apprécié par les élus de la nation, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Toute une journée n'aura pas suffi aux députés pour examiner le plan d'action présenté mardi par le chef du gouvernement. Quatre piliers résumés en 73 pages. Le document a été diversement apprécié par les élus de la nation. Timoléon Baïkoa, député de Power 1, deuxième vice-président du Parlement.
Je pense que chaque Centrafricain s'est retrouvé à travers ce pléthore de constats faits par le Premier ministre. Il a parlé de quatre priorités sur la relance économique, sur le problème de la sécurité, sur la bonne gouvernance et enfin sur les problèmes sociaux. Nous avons bien entendu, les débats ont commencé aujourd'hui, et bien l'exercice a commencé.
Nombreux sont ceux qui se sont exprimés en faveur de ce programme du gouvernement. Toutefois, des députés comme Laurent Gonbaba de Babois 1 y voient quelques manquements.
Malheureusement, ce programme ne précise pas un chronogramme de sa mise en œuvre ainsi que les moyens de la mise en œuvre de cette politique. C'est une faiblesse que j'ai relevée. Quand on parle de la politique générale, c'est une conception que nous voyons à ce niveau-là.
Les débats vont se poursuivre ce vendredi. Ils seront sanctionnés par le vote de la motion de confiance. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
À Brazzaville, le ministre congolais de la Justice a demandé jeudi au procureur de la République d'engager une procédure contre le pasteur Ntoumi et d'accélérer celle en cours contre le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars. Mise en cause dans une vidéo tournée en 2007 visant à chasser le président Denis Sassou Nguesso du pouvoir. Pierre Mabiala, ministre de la Justice, dans une conférence de presse.
Je peux solennellement vous annoncer que fait commis par le pasteur Ntoumi et ses partisans le 4 avril 2016 sont des faits extrêmement graves. La justice congolaise en est saisie. Mais parce que nous sommes une justice équitable que le pasteur Ntoumi fera l'objet des poursuites pénales, qu'il soit là ou pas. Si c'est des délits, eh bien, on pourra regarder ce qu'il faut faire. Mais si ce sont des faits qualifiés de crimes, alors à ce moment-là, nous procéderons à l'ouverture d'une information jusqu'au niveau de la cour criminelle, quitte à le juger même par contumace. En même temps, monsieur le procureur de la République, il faut activer la procédure judiciaire qui avait déjà été ouverte contre le général Mokoko Jean-Marie Michel. Il faut activer cette procédure parce que les procédures pénales ne doivent pas être rangées dans les tiroirs de la justice.
Pierre Mabiala, ministre de la Justice de la République du Congo.
Amnesty International a accusé hier les forces de l'ordre nigérianes d'avoir abattu des militants indépendantistes non armés avant et pendant une manifestation marquant l'anniversaire du début de la guerre civile du Biafra. Jean-Roger Bion.
Selon la police, 10 personnes ont été tuées, 5 dans la ville d'Onitsha dans l'état d'Anambra et 5 dans la ville d'Asaba dans l'état voisin de Delta dans le sud-est du Nigeria. Au cours de violences liées à ces commémorations le lundi 30 mai, le mouvement Peuple indigène du Biafra, IPOB, un groupe indépendantiste à l'origine de ces commémorations, soutient de son côté qu'au moins 35 de ses membres ont été tués à Onitsha. Au cours des visites des hôpitaux et des morgues, Amnesty a établi un bilan de 17 morts et 50 blessés à Onitsha, mais le chiffre réel est sans doute plus important, prévient l'Organisation de défense des droits de l'homme dans un communiqué. Certains des morts et des blessés ont été atteints par balles dans le dos, ce qui indique qu'ils étaient en train de fuir quand ils ont été touchés, précise Amnesty.
L'ambassade des États-Unis à Banjul a fermé jeudi, à l'exception des services essentiels, une décision prise après celle des autorités gambiennes de retirer leurs policiers, assurant la protection de l'édifice. Précision de Morgane Guiriec.
Aucune explication n'a été donnée par le gouvernement du président Yahya Jammeh à cette décision qui survient après l'arrestation le 16 avril d'une citoyenne américaine de 45 ans durant une visite à sa famille dans le pays. Fanta Darbo-Jawara, naturalisée américaine, a été arrêtée après une manifestation de l'opposition. Selon sa famille, elle n'avait rien à voir avec la manifestation et attendait simplement un taxi quand elle a été arrêtée et battue par la police. Le président du parti d'opposition UDP, Dembo Bojong, affirme que Mme Jawara est détenue dans la maison de l'avocat des droits de l'homme, Ousseinou Darbo, située près de l'ambassade des États-Unis. S'exprimant sous anonymat, un diplomate du département d'État américain, que cite l'AFP, a indiqué que les États-Unis ont fait part de leur inquiétude à la Gambie à propos du retrait des policiers. Il s'est toutefois refusé à établir un lien entre cette affaire et la polémique autour de l'arrestation de Mme Jawara.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des combats ont eu lieu hier dans le centre de Sirte, fief du groupe État islamique en Libye, après l'entrée des forces pro-gouvernementales dans cette ville qu'elles espèrent contrôler totalement dans les prochains jours. La perte de Sirte représenterait un énorme revers pour les djihadistes, alors que l'organisation terroriste fait face en Irak et en Syrie, les deux pays où elle est le mieux implantée, à plusieurs offensives soutenues par les États-Unis et par la Russie.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré jeudi avoir pris la pénible et douloureuse décision de retirer temporairement la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen de la liste des pays violant les droits des enfants. Des détails avec Michel Joseph.
Un rapport onusien publié le 2 juin accuse la coalition d'être responsable de la mort de plus de 500 enfants dans la guerre contre les rebelles Houthis au Yémen, ce qui lui a valu d'être placé sur la liste noire de l'ONU. Mais voilà le 6 juin, revirement de Ban Ki-moon qui annonce le retrait provisoire de la coalition de cette liste à la demande de l'Arabie saoudite. Le secrétaire général onusien a fait savoir jeudi avoir été contraint de prendre cette décision sous la pression indue des partisans de la coalition qui, a-t-il dit, ont menacé de cesser leurs contributions financières à plusieurs programmes de l'ONU. Ban Ki-moon a expliqué qu'il se devait de considérer la perspective bien réelle que des millions d'autres enfants souffrent sérieusement dans les territoires palestiniens, au Soudan du Sud ainsi qu'en Syrie. Le secrétaire général onusien réagissait aux accusations de plusieurs ONG selon lesquelles l'ONU a cédé aux pressions de Riyad. Pour l'ambassadeur d'Arabie saoudite à l'ONU, Abdallah Al-Mualimi, que cite l'agence AP, le retrait de la coalition saoudienne de la liste noire onusienne est définitif et irréversible.
Début aujourd'hui des ultimes hommages à Mohamed Ali. Le monde lui dit adieu pendant 2 jours. Les cérémonies se déroulent au cœur des États-Unis, à Louisville, sa ville natale. Eric Manirakiza.
C'est l'heure du dernier round. Pendant 2 jours, la cérémonie d'hommage des funérailles de Mohamed Ali va réunir 15 500 personnes, en plus des chefs d'État et dignitaires dans une salle omnisports de Louisville. Cette cérémonie funéraire est à la fois religieuse et universelle selon la volonté du défunt. La famille a exhorté les médias à s'abstenir de prendre des photos ou filmer la mise en terre. L'ancien président Bill Clinton et le comédien Billy Crystal prononceront une partie de l'éloge funèbre. Le Turc Recep Tayyip Erdogan sera présent. Il considère Mohamed Ali comme un combattant de la liberté, affirmant qu'il n'était pas seulement un champion ou une légende de la boxe. Une image symbolique, c'est Mohamed Ali portant un casque de sapeur-pompier après les attaques du 11 septembre 2001, une manière de dire que l'islam n'est pas une religion qui tue, mais de paix. L'inhumation se fera dans l'intimité absolue, en présence de ses enfants et de 6 autres personnes portant le cercueil de Mohamed Ali, notamment l'ancien champion du monde de boxe, Lennox Lewis. Adieu, Mohamed Ali.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Écho avec John Linden.
La capitale économique ivoirienne abritera fin octobre un salon international de l'automobile, symbole du renouveau d'un secteur durement affecté par la crise des années 2000. D'après le magazine Jeune Afrique, le marché ivoirien de l'automobile a cru de 10,8% en 2014 et de 12% en 2015. Les ventes de véhicules neufs en Côte d'Ivoire, toutes catégories confondues, ont atteint 260 milliards de francs CFA en 2015. Les vols aériens entre la Libye et l'aéroport de Tunis-Carthage ont repris hier jeudi après une interruption de plus de 6 mois pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'a annoncé l'Office tunisien de l'aviation civile et des aéroports. Un vaste coup de filet mondial contre le trafic de faux médicaments a permis l'arrestation de 396 suspects et la saisie de millions de produits potentiellement dangereux, du matériel dentaire contrefait ou des équipements chirurgicaux illégaux d'une valeur estimée à 53 millions de dollars, a annoncé Interpol hier jeudi. Cette opération, la 9e du genre, baptisée Pangea, a assemblé les policiers de 193 pays.
Maintenant, le journal des sports, largement consacré à l'Euro 2016 avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
C'est le jour J avec le coup d'envoi de l'Euro de football en France.
Oui, la pression monte pour le pays organisateur. Les Bleus affrontent ce vendredi en match d'ouverture la Roumanie à 19h temps universel. La bande à Didier Deschamps espère l'emporter devant son public au Stade de France. Les derniers détails sur ce match avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
Ça y est, la France va enfin débuter son Euro. Les Bleus lancent la compétition face à une équipe a priori largement à leur portée, la Roumanie au Stade de France. Après 3 semaines de préparation plutôt mouvementées sur le terrain et en dehors, Didier Deschamps a réussi tant bien que mal à trouver son équipe type. On devrait vraisemblablement retrouver Hugo Lloris, gardien de but et capitaine. Une défense à 4, Bakary Sagna latéral droit, Laurent Koscielny et Adil Rami dans l'axe, l'expérimenté Patrice Evra à gauche. Le point fort de cette équipe, le milieu de terrain, sera animé par Paul Pogba, Blaise Matuidi et très probablement N'Golo Kanté. En attaque, un léger doute subsiste, qui de Dimitri Payet ou Anthony Martial sera aligné côté gauche. Didier Deschamps est encore indécis, Antoine Griezmann sera sur l'aile droite et le très contesté Olivier Giroud dans l'axe. Tout un peuple retient son souffle avant le coup d'envoi d'un mois de football et espère évidemment une équipe de France victorieuse. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Merci Christian. Et dans l'autre rencontre du groupe A, ce sera samedi, l'Albanie affrontera la Suisse à Lens. Dans le groupe B, le choc du jour verra s'opposer l'Angleterre et la Russie. Autre match, le Pays de Galles face à la Slovénie. Et puis à noter Idrissa que le Portugal est le dernier pays arrivé. Il est arrivé hier en France. L'équipe de Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, a établi son camp de base en région parisienne.
Retrouvez toutes les infos sur l'Euro 2016 sur notre site internet voafrique.com.
Allez Idrissa, on parle de l'autre grand tournoi sur la planète ballon rond, c'est la Copa América, la suite des matchs, le groupe D la nuit dernière et le retour de Lionel Messi avec l'Argentine.
Oui, cette nuit, le Chili affronte la Bolivie et l'Argentine va croiser le fer avec le Panama. La star de la sélection argentine, Lionel Messi, pourrait faire son entrée lors de ce match. Messi n'avait pas participé à la victoire de l'Argentine contre le Chili de 1 lundi. L'attaquant vedette du FC Barcelone avait été ménagé, touché au dos lors d'un match de préparation.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau en votre compagnie, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposition de la RDC réunie en conclave à Bruxelles a dit non au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Elle a par ailleurs exigé la tenue de l'élection présidentielle avant le 19 décembre 2016, comme prévu par la Constitution. L'opposition congolaise a également rejeté toute idée de référendum. Eddy Issango a joint à la clôture du conclave à Bruxelles le porte-parole de la plateforme dynamique de l'opposition, Joseph Olengakoy.
On a dit non au dialogue de Joseph Kabila et on a réaffirmé notre attachement au respect de la Constitution de la République. Nous avons aussi dit que les élections doivent être dans le délai et dans la date constitutionnelle, dont notamment les élections du président de la République. Nous venons de réaffirmer ici l'unité de l'opposition et notamment dans l'unité d'action. Nous venons d'appeler à Joseph Kabila de libérer tous les prisonniers politiques et les médias d'État auxquels il a complètement à son service. Nous avons aussi trouvé d'autres solutions, dont notamment à tous les Congolais qui sont dans la diaspora, interdits de séjour dans leur pays, d'enlever ces mesures-là pour que les Congolais reviennent dans leur pays, qui est la terre de leurs ancêtres. Nous avons aussi demandé à Kabila de se préparer que le 19 décembre 2016, à minuit, son mandat prendra fin et le 20, le peuple s'achargera. Nous avons dit aussi que les élections, comme la Constitution le stipule, doivent être 90 jours, donc 3 mois avant, c'est-à-dire au mois d'octobre. Si on ne montre pas les signes de l'organisation des élections, nous commençons déjà la mobilisation de notre peuple. Et d'ailleurs, dès à présent, la mobilisation commence déjà aux environs du 30 juin. Nous avons créé un comité de sages. Nous avons mis Tshisekedi comme état, le président de ce comité de sages.
Pourtant, hier, à l'ouverture du conclave, M. Étienne Tshisekedi a appelé l'opposition à dialoguer avec le pouvoir pour permettre à Joseph Kabila de partir en décembre.
Il y a d'autres forces qui peuvent changer les choses et la dynamique de l'opposition a complètement refusé cela jusqu'à ce que nos points de vue ont été respectés et appréciés par d'autres composantes.
On sait que les partis au pouvoir il y a une semaine, avancé l'idée d'un référendum constitutionnel. Donc, on ne va-t-on pas dans ce sens-là?
Nous avons aussi des résolutions que s'ils osent même de lancer l'idée, nous allons mobiliser notre peuple et il aurait violé la Constitution et à ce moment-là, le peuple va s'assumer.
Que devient dans ce cas les facilitateurs désignés par l'Union africaine et même les panels de facilitateurs que vous avez proposés il y a quelques temps?
Nous avons réaffirmé notre attachement à la résolution 2277 des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Tout se passera dans le cadre du respect de l'application de cette résolution 2277. Donc, nous attendons par là la présence des États-Unis de l'Amérique, des Nations Unies, de l'Union africaine, de la francophonie.
C'était Joseph Olengakoy, porte-parole de la plateforme dynamique de l'opposition, joint à Bruxelles. RDC toujours, les acteurs multisectoriels dans la province du Sud Kivu viennent de s'engager à unir leurs efforts avec le gouvernement provincial dans la lutte contre la malnutrition chronique. Un enfant sur deux en est victime dans cette province de l'Est de la RDC, soit plus de 700 000 enfants. Notre correspondant sur place, Ernest Mouero.
Cette préoccupation liée au retard de croissance constaté chez les enfants de moins de 5 ans au Sud Kivu était au centre d'une conférence régionale sur les repositionnements de la nutrition, considérée désormais comme priorité de développement au Sud Kivu. Les intervenants dans le domaine de la nutrition sont venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Rwanda et du Burundi pour partager leur expérience à la matière avec le Sud Kivusien. Tanimoun Mamadou, spécialiste en nutrition du programme alimentaire mondial au Rwanda, explique.
Et c'est vrai qu'il y a eu des progrès importants au Rwanda, parce qu'on est passé d'un niveau critique au-delà de 40% à un niveau maintenant qui est considéré comme sérieux toujours, mais qui est inférieur à 40%. Mais ici, il faut qu'on mette les efforts ensemble pour qu'on puisse donc réduire ça. Et je pense qu'il y a un potentiel. Cette conférence a été très utile d'abord pour éveiller l'esprit des responsables et des différents acteurs ici. Donc, il y a des chances à mieux faire.
Ces cas du Sud-Kivu qui touchent plus de 700 000 enfants devraient interpeller les décideurs politiques, estime Toi Salvatore, coordonnateur du projet Interagence de lutte contre la malnutrition au Burundi.
Étant donné que le Sud-Kivu est voisin pays comme le Rwanda et le Burundi et que les problèmes sont toujours liés, les enfants qui ont eu la malnutrition chronique ne peuvent pas évoluer à l'école. Ces enfants abandonnent et se lancent dans d'autres activités. Le problème que l'on peut avoir au niveau de la sous-région, c'est que les enfants devenus adultes qui sont des délinquants de la rue peuvent quitter d'un pays à l'autre et causer les mêmes ennuis au niveau de la sous-région.
Mais comment en est-on arrivé à un taux de 53% des enfants souffrant de la malnutrition chronique au Sud-Kivu? Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanza Nangunya, répond.
C'est une situation qui part de sa maman. Le problème est lié surtout aux habitudes alimentaires. Il y a le problème sécuritaire parce que dans les villages, la production a baissé. Mais aussi, les voies d'écoulement des produits des champs n'arrivent pas auprès des consommateurs. Lorsque vous regardez au Sud-Kivu, la plupart des aliments qu'on consomme viennent des pays voisins.
Ainsi, du 24 au 26 mai, chercheurs, spécialistes des questions de nutrition, organisations locales de développement, acteurs politiques, députés, opérateurs économiques, chefs de chefferie et délégués des entités territoriales décentralisées se sont joints aux délégués du gouvernement provincial et agences du système des Nations Unies pour réfléchir et affûter des stratégies possibles afin d'inverser la tendance au Sud-Kivu. Le ministre Mwanza Nangunya revient sur l'essentiel de l'engagement contenu dans la charte de Bukavu signée à l'issue de ses assises.
On retrouve dans cette charte les engagements du gouvernement provincial. On retrouve les engagements des partenaires. Nous avons demandé à ce que la société civile s'engage dans la sensibilisation pour ce qui est des bailleurs de fonds. Et chaque projet qu'on devrait financer, on devrait quand même considérer une part pour la nutrition. Et franchement, je crois que l'engagement est total. Nous sommes en train de travailler sur une feuille de route qui va retracer les principales activités à mener.
Cette conférence tenue à Bukavu était organisée par le gouvernement du Sud-Kivu avec l'appui de la coopération suisse, le FAO, le PAM et l'UNICEF. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Au Mali, signature de deux protocoles d'entente entre le gouvernement et les États-Unis. Les deux documents doivent permettre une lutte efficace contre le terrorisme et le banditisme au Mali. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Le premier protocole est un accord dont le montant n'est pas spécifié. Il vise à doter le Mali d'une équipe d'intervention immédiate de la gendarmerie nationale pour rapidement évaluer, gérer et contrôler un acte terroriste. Paul Folsby, ambassadeur des USA au Mali.
L'ambassade américaine travaillera avec le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale pour améliorer la sécurité des personnes, y compris les étrangers au Mali, et renforcer les relations bilatérale entre les deux nations. Le programme sera mis en œuvre par le Bureau de lutte contre le terrorisme et de la sécurité diplomatique et le Bureau d'assistance pour la lutte contre le terrorisme du département d'État.
Le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale sera une unité rapide pour faire face au terrorisme. Elle doit assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine.
Notre pays est plus que jamais résolu à apporter une réponse efficace à la menace terroriste qui est désormais présente dans notre pays.
L'autre protocole est une série de formations permanentes pour les agents de la sécurité du Mali, mais elle va commencer par 5 départements ministériels. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
Le gouvernement du Mali va désigner au total 12 candidats issus de 5 ministères différents. Les candidats seront soumis à un programme académique rigoureux, complété par des exercices pratiques qui les prépareront à contribuer à la prise de décisions d'ordre sécuritaire au niveau national. À leur retour, les 12 candidats viendront compléter le personnel du Bureau de coordination de la stratégie interministérielle que le gouvernement du Mali est en train de créer.
Le Mali se réjouit de la qualité des relations multiformes avec les États-Unis d'Amérique, qui devient un partenaire incontournable. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, de la coopération relations internationales et de l'intégration africaine.
Je puis formuler à ce stade le vœu que cette assistance puisse aider aussi à un élargissement et une consolidation de notre relation bilatérale qui aujourd'hui touche pratiquement à toutes les questions.
Les deux documents précieux ont été signés du côté malien par le ministre Diop et pour les États-Unis d'Amérique, c'est Paul Folsby qui a acté les deux protocoles qui sont déjà en phase de concrétisation car les équipes techniques ont commencé le travail. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina, le gouvernement a décidé d'abandonner le coton OGM pour revenir au coton traditionnel. Reportage de Zoumana Wonogo.
Après l'annonce de l'abandon du coton OGM, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, est allée à la rencontre des cotonculteurs, histoire de savoir si la mayonnaise du coton conventionnel va prendre. Bilan des rencontres avec le conseiller technique Aboubakar Sey.
Ce sont 21 équipes qui ont sillonné 228 villages pour échanger à bâtons rompus avec 20 615 producteurs provenant de 6 043 groupements de producteurs de coton GPC. Les préoccupations phare ressortie lors de ces forats se résume à ce qui suit. La mise en place à temps des intrants agricoles, la disponibilité à temps de la semence en quantité et en qualité, ainsi que la construction de stocks tampons de semences dans les villages. La protection phytosanitaire des cotonniers pour la mise à disposition à temps de bons produits insecticides et un besoin en formation sur ce thème d'actualité au regard du retour à 100% de coton conventionnel. Sur ce point, les producteurs ont marqué leur adhésion à l'objectif de production de 600 000 tonnes de coton graines consigné dans le plan d'action.
Nous avons voulu entendre de la bouche des cotonculteurs ce qu'ils pensent de ce retour au coton conventionnel. El Hadj Tayirou Fofana, le vice-président de l'UNPCB, Union nationale des producteurs de coton du Burkina.
Ceux qui ne pouvaient pas produire le conventionnel, c'est ceux, les personnes âgées, ceux qui ont l'inquiétude. Parce qu'actuellement, si tu n'as pas des jeunes qui peuvent traiter ça, toi, à ton âge, tu ne peux pas porter l'appareil. Les jours de traitement, c'est un appareil de 16 kilos que tu portes. C'est de deuxième âge-là. Il ne pouvait pas le faire. On en a fait tout le tour de Burkina. On a expliqué de A à Z aux producteurs. On n'a pas refusé totalement. Non, non, c'est un pas en arrière pour qu'ils aient. C'était de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la file soit longue. Seulement, si Monsanto a pu faire ça là et que nous gagnons nos bains, c'est un marché.
Pour le directeur général de la Sofitex, la vraie bataille est celle qui doit être menée contre les parasites du cotonnier. On écoute le DG Wilfried Yameogo.
Depuis le jour où on a dit qu'on fait du 100% conventionnel, les chenilles qui sont en terre là sont en train de jouir de ce qu'il y a à manger. Elles n'auront pas à manger, si Dieu le veut. Voilà, elles n'auront pas à manger parce que nous allons travailler. Voilà, nous allons nous appliquer sur la protection phytosanitaire pour ne pas leur donner de chance de détruire les exploitations cotonnières.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, au Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Alors que le monde entier s'apprête à rendre un dernier hommage à Muhammad Ali à Louisville dans l'état du Kentucky, Raymond Taylor de la Voix de l'Amérique a visité le quartier de son enfance à West End. Son récit, présenté par Lionel Gahima.
Comme beaucoup d'habitants de Louisville, le rappeur et activiste communautaire Chris Flo Forehand est fier de sa ville. West End, son quartier fut jadis celui de Muhammad Ali lorsqu'il était enfant. Aujourd'hui encore, l'impact du défunt y est perceptible. Survivant d'une attaque à l'arme à feu, Forehand met un point d'honneur à sensibiliser les enfants sur les gangs dans les endroits à risque comme West End. Nous devons donner espoir à nos enfants et aux plus jeunes. Ali a laissé un héritage d'espoir pour les jeunes. Natif de Chicago, Mark Stampley vit maintenant à Louisville où il n'oubliera jamais sa rencontre avec Muhammad Ali.
He turned to me and he shook my hand.
Il s'est tourné vers moi et m'a serré la main. Les gens connaissent de nombreux problèmes, en particulier les Noirs. Et vous avez vu comment il en a parlé. Il nous rendait puissants du simple fait d'être en sa présence. Âgée de 79 ans, Marjorie Hoffman a passé toute sa vie à West End. Elle se souvient d'avoir souvent joué avec Ali et ses amis dans un parc public proche de sa maison. C'est un exemple pour la nouvelle génération, estime-t-elle. Si les jeunes s'arrêtent un instant, réfléchissent et font confiance à Dieu, ils peuvent devenir d'autres Muhammad Ali, a expliqué l'ancienne voisine d'Ali.
Il disait toujours qu'il allait devenir champion, le plus grand boxeur. Et vous savez, lorsque les gens racontent des choses dans leur enfance, nous avions ri de tout cela à l'époque. Mais tout ce qu'il a dit s'est réalisé.
Jeunes et vieux, tous les habitants de West End, l'ancien quartier de Mohamed Ali à Louisville, ont chacun une histoire racontée sur lui. Ils assurent que le défunt champion est resté dans leur vie longtemps après être devenu une célébrité mondiale.